Bonjour et bienvenue pour une affaire criminelle. L'histoire que nous allons vous relater aujourd'hui nous vient tout droit de la fin du 19e siècle dans une France tiraillée, entre un monde rural proche de son extinction et un monde moderne toujours plus attirant avec ses nouvelles automobiles et son exposition universelle. D'ailleurs, Paris est devenu le centre du monde, capitale où toutes les folies, ou presque, sont permises. Et puis, il y a ce monde des campagnes, négligé, arriéré, décalé avec le reste du pays qui est désormais projeté dans le futur. C'est dans ce contexte trouble que surgira l'histoire terrifiante de Joseph Vacher. Le Jack l'Éventreur français ne bénéficiera cependant pas de la même notoriété que celle du célèbre tueur de prostituées de Whitechapel. Néanmoins, de l'autre côté de la Manche, les crimes en série perpétrés par Joseph Vacher égaleront celles de l'éventreur anglais, de par leur cruauté, leur méthode de dépeçage et leur violence. Hormis la course effrénée vers le XXe siècle, la fin des années 1890 en France est surtout marquée par le chômage, qui bat son plein. La récente révolution industrielle avait certes facilité beaucoup de choses, mais elle avait eu aussi son impact sur les populations, surtout les plus défavorisées d'entre elles. Les manufactures des villes industrialisées, telles que Lille, Paris, Lyon, Bordeaux, licencient en masse. Des familles d'ouvriers se retrouvent du jour au lendemain sans manger et expulsées de leur logement, faute de ne pas pouvoir s'acquitter de leur loyer. Mais le phénomène qui menace surtout la campagne française de ces temps-là est vraisemblablement celle du vagabondage qui sévira longtemps dans les coins reculés du pays. Des hordes de zonards, chassés par la misère des villes, parcoururent des kilomètres à pied à la recherche d'un potentiel travail dans les fermes. Leur nombre est gigantesque. On dénombre entre 200 et 400 000 individus dans ces années-là. Qu'ils soient saisonniers ou journaliers, ces vagabonds vaquent de paroisse en village, de village en hameau, sales, vêtus misérablement, baluchons sur l'épaule, dans une recherche désespérée de gîtes et de couverts. Souvent rabroués et inspirant la méfiance, à cause de leur apparence repoussante, ces mêmes individus se mettent alors à voler et à agresser. Et il ne s'écoule pas un jour sans que la gendarmerie n'intervienne dans tel ou tel village pour embarquer l'un d'eux. Il faudra pourtant atteindre la fin de l'année 1907 pour que Georges Clemenceau, le président de la République d'alors, se voie obligé de fonder une unité policière motorisée, la célèbre Brigade du Tigre, à l'assaut des malfrats de grand chemin. Joseph Vacher était de cette trempe-là, mais d'un genre bien particulier. D'ailleurs, la question qui reviendra incessamment est « Pour quel mobile Joseph Vacher tuait-il ?» Son parcours sera enchevêtré de changements drastiques et d'indécisions. Il sera tour à tour prêtre, instituteur, cabaretier, militaire, interné dans des asiles, vagabond puis assassin. Il volera, violera, molestera et massacrera pas moins d'une trentaine d'individus des deux sexes, au gré du hasard et du lieu, avec un acharnement et une sauvagerie telle que l'on douta longtemps si ce fut l'œuvre d'un animal sauvage encore inconnu. Mais si les crimes de Joseph Vacher demeurèrent ainsi inexpliqués, c'est bien en grande partie à cause du manque de coordination entre les différents corps de police régionale, retranchés chacune dans son département ou dans son district, et ignorant complètement ce qui se passait dans la commune voisine. Il faudra compter sur le mode opératoire innovant d'un jeune et débutant magistrat, Émile Fourquet, qui va mener pour la première fois dans l'histoire de la criminalité française un travail de profiler digne des temps modernes. Avec les moyens rudimentaires caractéristiques de cette époque, le juge Fourquet, guidé par une détermination et un avant-gardisme avant l'heure, va remettre en place une à une les pièces du puzzle du parcours criminel de Vacher depuis ses tout débuts. Un véritable travail de fourmi, et ce, malgré le manque de solidarité de ses confrères et leur peu de foi dans ses idées jugées un peu trop fantaisistes et exagérées. Le juge Fourquet fera participer pour la première fois et conjointement toutes les autorités compétentes du pays dans ses investigations, dans un élan de réorganisation de la police nationale française qui n'avait jamais encore travaillé ainsi. Et c'est de cette façon qu'il pistera et mettra enfin la main sur l'éventreur du Sud-Est en 1897. Commence alors un face-à-face entre Joseph Vacher et le magistrat, où là aussi sa méthodologie sera pionnière. Instaurer un dialogue décontracté avec le meurtrier sans le brusquer. Une tactique visant à le mettre en confiance et lui faire avouer ses crimes sans avoir recours au mode traditionnel de torture. Mais derrière le regard fou de Vacher, qui semble sonder son interlocuteur, sévit une âme noircie par le vice et la pulsion refoulée sous toutes ses formes. Je vous invite donc, auditrices et auditeurs, à découvrir avec moi la terrifiante histoire de Joseph Vacher, l'éventreur du Sud-Est. À la fin du 19e siècle, le concept de tueur en série comme on le connaît aujourd'hui, traqueur mobile et itinérant, ne figure pas encore dans les colonnes faits divers des gazettes françaises et ne hante pas encore la conscience collective. Le concept de tuer à cause d'une déviance mentale ou par vice n'entrait pas en ligne de compte. Pour la majorité, si l'on tue, c'est pour venger son honneur comme lors des duels et pas pour autre chose. Dans les campagnes, c'était une autre paire de manches. Les craintes étaient plus caractérisées par les mauvais esprits qui hanteraient les lieux ou la maladie soudaine qui pourrait emporter un troupeau de moutons ou un fermier encore bien portant. Neige, grêle, sécheresse qui anéantissait les récoltes et faisait profiler la famine et personne n'avait jamais encore entendu parler de tueurs en série. Si en ville, les enfants pouvaient bénéficier d'une éducation pédagogique, dans les milieux paysans, les enfants étaient envoyés en qualité de bergers dans les pâturages. Et il n'était pas rare d'avoir la responsabilité d'un cheptel quand on était à peine âgé de 10 ou 11 ans. Même les loups ne constituaient pas vraiment de danger. Ils avaient bien trop peur des bergers et de leurs chiens pour oser s'en approcher et s'y attaquer. Vers la fin des années 1890, arriva, sans crier garde, une vague de migration dans le sens inverse, venant des villes et cherchant refuge dans les campagnes. Les individus sont tous de sexe masculin, voyageant seuls, avec, pour tout bagage, leurs vêtements sur les épaules. Eux, ce sont les ouvriers jetés dehors suite à la fermeture de leurs usines en ville. Incapables de nourrir leur famille, ils ont choisi de prendre la route pour éviter honte et reproches. Si la plupart sont inoffensifs et ne demandent qu'à travailler dans les champs et les potagers contre quelques pièces d'argent, ou à défaut un peu de nourriture, d'autres se transformeront en véritables prédateurs, coursant les paysannes et n'hésitant pas à voler quand on leur refusait l'aumône. Désormais, la quiétude légendaire de la campagne est reléguée aux oubliettes. On se replie chez soi et surtout, on a peur de l'ouvrier transformé en cheminot, des vagabonds esselés à l'assaut des jeunes filles isolées dans les champs. C'est durant cette période que le 19 mai 1894, en Isère, le corps d'une jeune ouvrière de 21 ans, Eugénie Delhomme, est retrouvé dans un état épouvantable à 200 mètres de la manufacture où elle travaillait. Sa gorge a été tranchée, ses seins ont été tailladés, ses organes génitaux mutilés avec un objet tranchant. Elle avait été éventrée et baignée dans une traînée de sang. Les villageois qui la découvrent ainsi sont horrifiés. Qui a bien pu commettre un tel carnage ? Visiblement, la demoiselle Delhomme rentrait chez ses parents quand elle a été surprise par son agresseur face auquel elle avait été incapable d'opposer de la résistance. Le crime d'Eugénie Delhomme sera le premier d'une longue série de 20 meurtres, commis avec la même barbarie sur une période de 3 ans. Entre 1894 et 1897, des cadavres de jeunes filles et de jeunes garçons vont joncher les campagnes françaises, provoquant une psychose et faisant planer le doute sur l'identité du meurtrier. Est-ce bien l'œuvre d'un homme ou d'une bête ? Mais un mois à peine après ce crime atroce, un autre de la même envergure se produit dans le Var. Le 20 novembre 1894, en bordure de route, le corps d'une petite bergère de 13 ans, Louise Marcel, est retrouvé mutilé. Son cadavre présente des traces de lutte. Elle avait voulu vraisemblablement se défendre. Son agresseur, comme enragé par sa résistance, lui avait sectionné entièrement les doigts de la main avec un couteau. Pire, il avait par la suite pratiqué sur elle des relations sexuelles post-mortem. Août 1895, en Franche-Comté, le corps d'une journalière, Augustine Mortureux, est retrouvé dans un état similaire que les précédentes victimes. Cou et sein tailladé et estomac sectionné. Les traces laissées sur son corps montre que l'assassin semblait avoir été surpris en cours de route et n'avait pas poursuivi son horrible besogne. Il avait eu juste le temps d'emporter les chaussures de la jeune femme avec lui. Pour quelle raison étrange, nul ne le savait. Août 1895, en Savoie, alors qu'elle était dans sa cuisine, une paysanne de 58 ans, la veuve Morand, est violemment attaquée au couteau par un individu surgi de nulle part. Elle est sauvée in extremis par ses fils arrivés entre-temps, mais l'agresseur avait pris la fuite, sans leur laisser l'occasion de l'identifier. Les gendarmes n'ont pas l'ombre d'un indice à exploiter, et l'individu n'avait été jusqu'ici pas encore vu par personne. Dans la journée du 1er septembre 1895, à Bénonce, dans l'Ain, alors que tout le monde est dans les champs ou dans les granges, des villageois sont alertés par un cri épouvantable venant de la forêt. On accourt de toutes parts. Les bergers, alertés les premiers, arrivent dans une friche où ils découvrent des traces de sang et des organes humains disséqués. Horrifiés, ils avancent néanmoins pour découvrir enfin l'horreur. Sous un parterre de genévriers, gît le cadavre d'un jeune berger de 16 ans, Victor Portalier. Orphelin de père, sa mère l'avait placé quelques mois auparavant chez un fermier de Bénonce pour qu'il devienne berger. Le jeune adolescent était depuis considéré comme un membre de la famille. La scène du crime est une vision de cauchemar. Victor Portalier est à moitié nu, éventré. Ses entrailles pendant hors de son estomac, ses parties génitales coupées. Il présente également des plaies sur le cou, des blessures au thorax et son artère carotide a été sectionnée. Vraisemblablement, l'adolescent a été pris au dépourvu par son malfaiteur. Les villageois découvrent encore la suite. Le pantalon du garçon a été baissé jusqu'aux chevilles et il a été violé par pénétration anale. En un rien de temps, le massacre fait le tour de toute la commune. On chuchote surtout à propos du crime à caractère sexuel, jugé immoral. L'ensemble des villageois est révulsé et horrifié. Les jours suivants, une grande battue est organisée, impliquant 150 hommes qui fouillent les bois et les alentours sans résultat. Pourtant, certains témoins assurent avoir vu rôder un individu à l'œil bizarre et à la joue rougie depuis quelques jours à Bénonce. Mais il aurait disparu depuis la découverte du cadavre. Transféré en justice, l'affaire finit par aboutir à un non-lieu et le procureur boucle le dossier. Moins d'un mois plus tard, le 22 septembre 1895, dans la Drôme, le corps d'Aline Alaise, petite bergère de 13 ans, est retrouvé disséqué, éventré et jeté dans un fossé. 6 mois plus tard, dans la région de Lyon, on fait la découverte d'un nouveau cadavre. Il s'appelle Pierre-Laurent Massot-Pelé. Il est âgé de 13 ans et gardait son troupeau de moutons quand l'assassin a fondu sur lui. Son cadavre est découvert par un paysan, guidé par une grande trace de sang et un morceau de testicule jeté sur la route. Pierre-Laurent a eu le cou sectionné jusqu'à la colonne vertébrale. Le 1er mars 1896, dans la Sarthe cette fois-ci, Marie Derouet, une petite bergère âgée d'une dizaine d'années, échappe de peu à une tentative de viol. Puis encore, le 10 septembre 1896, dans l'Allier, en Auvergne, Marie Moussier-Lauru, âgée de 19 ans, est retrouvée assassinée dans un bois. Son cou présente des traces de strangulation, ses organes génitaux ont été enlevés avec un objet tranchant et ses seins ont été lacérés. Le massacre se poursuit encore le 1er octobre 1896, cette fois-ci en Haute-Loire. Rosine Rodier, une petite bergère de 14 ans partie avec son troupeau sur les hauteurs pour la saison de transhumance, est retrouvée morte dans un terrain vallonné, étranglée et poignardée. Puis à Belfort, une petite fille de 9 ans, Olympe Buisson, est retrouvée violée, égorgée et éventrée. Des traces de viol anal ont également été relevées. Malgré le nombre important de victimes, toutes les recherches entreprises aussi bien par les villageois que par la gendarmerie resteront vaines. Les blessures que présentent les victimes sont tellement profondes que l'on douta pendant longtemps qu'un être humain puisse être capable d'un tel carnage. Et même en supposant que ça soit l'œuvre d'une bête sauvage, elle pourrait être aussi bien manipulée par un cerveau humain complètement déviant et diabolique. Les victimes violées ne pouvaient l'être que par un homme en proie à des pulsions. Dans tous les villages du Sud-Est, c'est désormais la psychose. Qui est donc cet ignoble et mystérieux meurtrier qui tue au gré de ses itinérances et sans jamais laisser de traces? La terreur est telle que les jeunes bergers ne se déplacent plus désormais qu'en groupe de 3 ou 4 et ne se séparent plus dans les pâturages. Les villageois sont sur le qui-vive et la gendarmerie plus impuissante que jamais. Pourtant, certains villageois assurent avoir vu un drôle d'homme portant un chapeau de type savoyard et sentant très mauvais traîner dans les parages. À chaque nouveau crime commis, des témoins oculaires se manifestent et donnent les mêmes signalisations. L'indice qui revient fréquemment est l'odeur corporelle de cet homme. Une odeur puissante et nauséabonde. Son apparence aussi est singulière. Il est brun, assez typé, portant un bonnet de peau et a un regard effroyable. L'œil droit immobile injecté de sang, sondeur et fiévreux. Son nom ? Joseph Vacher. En tant que meurtrier, il ne semble pas privilégier un sexe ou un âge en particulier. Il frappe au gré du hasard, emporté et dans une folie meurtrière sans précédent, avant de s'évanouir dans la nature comme il est apparu. Dans le contexte de cette époque, les différentes gendarmeries du territoire national n'ont aucun lien les unes avec les autres. Et pour cause, on ne s'occupe que des délits qui ont eu lieu localement. Dans son département, voire dans sa commune, sans avoir aucune idée du déroulement des choses chez les voisins. Les inspecteurs ne mènent jamais d'investigation sur le terrain et ne prennent même pas la peine de se déplacer sur une quelconque scène de crime. D'ailleurs, les plus expérimentés d'entre eux sont tous à Paris, bien trop occupés par les malfrats de la capitale pour venir s'intéresser à des meurtres ayant lieu en province. C'est dans cet esprit de non-concordance des autorités compétentes que Joseph Vacher agit. Bien conscient du fait qu'il lui suffit de passer d'une région ou d'un département à un autre pour échapper aux gendarmes et aux parquets. Entre 2 crimes commis, il laisse toujours une trêve pour se faire oublier avant de frapper à nouveau. Face à cette situation de plus en plus grave et inexpliquée, un magistrat de 36 ans, nouvellement promu, fera sa retentissante entrée en scène. En avril 1897, Émile Fourquet prend ses fonctions à Belley dans l'Ain. Sa mission ? Comprendre le mécanisme des tueurs que les précédentes enquêtes menées par ses prédécesseurs ont tout bonnement ignoré. Dans cet esprit toujours avant-gardiste d'investigation teinté de modernité, Fourquet va explorer le passé de ces criminels, s'intéressant à leur milieu familial, au déroulement de leur enfance, suivre leur itinéraire de vie, comprendre leur fonctionnement psychique. Le travail mené durant cette affaire par le juge Fourquet s'apparenterait aujourd'hui au métier de profiler. Or, à la fin du 19e siècle, c'était encore une fonction tout à fait inconnue. Avec sa méthodologie innovante, le juge Fourquet va bouleverser tout le fonctionnement de la police française, précipitant sa réorganisation et créant un lien entre ses différents corps, brigades, agents, inspecteurs et commissaires. Jamais encore des procureurs n'ont été sollicités pour compléter des pièces de dossier d'instruction. Jamais encore aucun d'eux n'a été prié de revoir ses notes de dossier incomplètes. Ce bouleversement des règles de travail, le juge Fourquet le fera encore une fois. Comment le juge a-t-il eu ce déclic? Pour le savoir, il faudra remonter à 2 mois plus tôt, juste après son installation à Belley. En lisant le journal un matin, il tombe sur un article relatant un meurtre particulièrement sordide ayant eu lieu dans la région de Bénonce. La victime est un jeune berger nommé Victor Portalier, dont le cadavre a été trouvé presque nu, sous des genévriers, violé, affreusement mutilé et dans un état épouvantable. Le juge Fourquet décide alors d'en faire son affaire personnelle, et pour cerner son tueur, comme il l'appellera désormais, il va avoir recours à des tableaux de concordance. Son confrère, maître Fonfrède, procureur à Dijon, lui envoie sur sa demande un dossier d'instruction couvrant un meurtre similaire commis sur la personne d'Augustine Mortueux en 1895, ainsi que d'autres assassinats commis dans la Loire et l'Allier. Au total, 7 meurtres, répertoriés sur 7 régions différentes, ayant comme point commun la barbarie et le massacre épouvantable dans lequel les victimes ont été retrouvées. Émile Fourquet se lance alors avec passion et conviction dans ses recherches, fait le rapprochement entre les assassinats. Prenant de l'avance en matière d'archivage policier, il va pour chaque victime dresser une anagramme comportant ses traits physiques, sa provenance, sa fonction et son sexe. Un véritable travail minutieux qu'il réalisera lui-même sur papier. Rapidement, il constate alors que les similitudes entre les différents meurtres sont frappantes. Tous sont l'œuvre d'un seul et même individu. Il en est persuadé. Encore faudrait-il le trouver. Il se base alors sur le signalement d'un vagabond qu'on lui a fait parvenir, récemment impliqué dans une affaire de bonnes mœurs. On parle d'un individu mâle, âgé de 30 ans, aux traits bruns, à la lèvre supérieure relevée et au blanc de l'œil droit sanguinolent. Le 10 juillet 1897, Fourquet adresse le signalement du suspect à tous les parquets de France et attend la réponse des juges d'instruction. Mais aucune réponse ne vient. Décrié pour son zèle, le juge Fourquet n'est pas pris au sérieux par ses aînés, qui doutèrent de sa capacité à résoudre tout seul cette série de crimes inexpliqués. Joseph Vacher, de son côté, se trouvait alors dans la région ardéchoise. Le 4 août 1897, il tente d'agresser sexuellement une fermière, Madame Plantier, mais cette dernière est sauvée in extremis par son mari. Arrêté pour outrage public à la pudeur, Joseph Vacher est conduit au tribunal et condamné à 3 mois de prison. Il serait temps de nous intéresser un peu à l'histoire de ce Joseph Vacher, afin de sonder un peu plus sa personnalité et les circonstances qui l'auraient conduit au crime violent qu'il avait commis. Joseph Vacher est né en Isère au sein d'une famille d'agriculteurs. Son père, Pierre Vacher, a 15 ans de plus que sa mère, Marie-Rose Ravi, dite Rosalie. Les parents, très dévots, sont respectés dans le village. La famille évolue dans un milieu paysan et modeste. Rosalie Vacher est une femme presque mystique et en proie continuelle à des hallucinations d'ordre paranormal. Joseph et son frère jumeau Eugène sont les derniers d'une fratrie de 15 enfants. Alors âgé d'à peine 8 mois, le petit Eugène meurt, étouffé par une miche de pain chaude qu'on avait sortie du four et déposée accidentellement sur sa tête. Enfant, Joseph est décrit comme un écolier sournois, malicieux et rageur, qui n'hésite pas à s'attaquer à ses camarades de l'école communale et même à ses frères et sœurs plus âgés que lui. Adolescent, il quitte le foyer familial après la mort de sa mère pour aller travailler dans les fermes alentours. Il est fort probable que son penchant pour la violence morbide et sa déviance sexuelle soient nés à cette époque. En juin 1884, un enfant de 10 ans, Joseph Amieux, est retrouvé violé et mort dans une grange de la région. Joseph Vacher travaillait alors à proximité de l'endroit. Quoi qu'on le soupçonne, il ne sera guère condamné pour le meurtre et l'affaire est classée sans suite. 2 ans plus tard, il se tourne vers une carrière religieuse et rentre en qualité de postulant chez les frères maristes de Champagnat, une congrégation laïque masculine, enseignant le droit pontifical et donnant des cours de latin et de théologie. Au sein de la congrégation, Joseph Vacher se sent en paix et s'illustre pour son amour de l'étude, tant et si bien que l'on commence à lui confier des classes de jeunes garçons. Mais ses pulsions sexuelles prendront le dessus et il est rapidement exclu de l'institution pour actes immoraux. Il avait vraisemblablement pratiqué des attouchements sur des jeunes garçons de sa classe et avait eu des relations sexuelles avec des condisciples. Pour éviter le scandale, il se dépêche de retourner en Isère dans la ferme familiale où il travailla pendant un temps en tant qu'agriculteur. Ses pulsions prennent encore le dessus. Il tentera d'abuser sexuellement d'un jeune valet de 12 ans rentré en service chez son père. Quelques mois plus tard, il se rend à Grenoble, rejoindre l'une de ses sœurs, Olympe, devenue tenancière d'une maison close. Exerçant alternativement le métier d'entraîneuse dans les tavernes, elle lui trouva un travail de cabaretier. Joseph Vacher, tour à tour fils de paysan et apprenti prêtre, embrasse sans grande difficulté cette nouvelle profession qui lui garantit rencontres et alcool gratuit. Luttant contre une homosexualité latente et refoulée, il se met à fréquenter assidûment les prostituées chaque nuit. C'est là où il récolte une maladie vénérienne de type syphilis et doit subir une opération pour se soigner le 11 février 1889. Il faut savoir qu'à cette époque, les opérations chirurgicales s'apparentaient plus à des boucheries, d'où le patient ressortait généralement affreusement mutilé. Et pour Joseph Vacher, Les séquelles sont traumatisantes. Il en ressort avec une ablation d'une partie du testicule. Lors de son arrestation beaucoup plus tard, il assurera lors de ses interrogatoires que cette opération avait marqué un tournant dramatique dans sa vie de jeune homme et qu'elle serait même l'instigatrice de son penchant pour les mutilations. Sa convalescence se déroule mal. Il tombe en dépression ponctuée par des périodes de prostration et de rage inouïe envers le personnel soignant. On le décrit comme dangereux, colérique, comme possédé. Déclaré guéri au bout d'un mois, il part rejoindre les rangs de l'armée pour embrasser une carrière militaire. Cependant, quelque chose en lui avait changé, dans le sens péjoratif du terme. Il est envoyé au 60e régiment d'infanterie de Besançon. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Victime de bizutage dès son arrivée à la caserne, il manifeste de la violence envers ses nouveaux camarades. Il est décrit comme dépressif, farouche, troublé et suicidaire. Comme lors de son séjour chez les prêtres, la carrière militaire le subjugue et force son admiration. Il fera beaucoup d'efforts pour être parmi les premiers de sa promotion et cherchera désespérément la reconnaissance et l'admiration de ses pairs et de ses supérieurs. Arrivé pourtant quatrième du classement à l'école des élèves caporaux, il se voit refuser ses galons de caporal et recalé à cause de son comportement. Il vit douloureusement cet échec, le considérant comme une terrible injustice faite à son encontre. Dans un moment de profonde mélancolie, il tente de se trancher la gorge avec un couteau. Un de ses supérieurs, pris de pitié, décide de le réhabiliter, et après révision de son cas, son galon lui est restitué. Vacher se hisse rapidement plus haut dans les rangs de l'armée, allant jusqu'à décrocher le grade de sergent. Il prend goût à la vie militaire et use et abuse de son autorité. En 1893, toujours à Besançon, il fait sa première vraie rencontre sentimentale lors d'un bal. Elle s'appelle Louise Baran, et c'est une charmante cantinière brune. Joseph Vacher veut faire les choses dans les normes et souhaite demander sa main à son père. Sauf que l'histoire d'amour n'est pas réciproque. Louise veut garder sa distance, puis commence carrément à le fuir, et se fiance dans la foulée avec un autre soldat, ce qui mettra Joseph Vacher en rage. Pour se venger, il va la retrouver, la harcèle, puis sort son revolver et lui tire 3 balles à bout portant. Louise Baran n'est cependant blessée que superficiellement, les balles n'ayant fait que traverser la peau, freinées sûrement par la superposition de son corset. Mais sous l'effet du choc et de la peur, elle s'effondre par terre. La croyant morte, Vacher redirige son arme sur lui et visa bien cette fois-ci. 2 balles lui rentrent par l'oreille et se logèrent dans son cou et son nerf facial droit. Les balles ne pouvant être extraites par un chirurgien, Vacher gardera suite à cet accident une surdité totale de l'oreille droite et une semi-paralysie névralgique faciale, ce qui occasionnera son regard fixe et injecté de sang, ainsi qu'une purulence auriculaire permanente. Le destin semble s'acharner. Ainsi flanqué d'un second handicap, Joseph Vacher portera désormais toujours un chapeau ou un bonnet pour cacher les vestiges de sa mésaventure. Entre 1893 et 1894, il fait des séjours plus ou moins prolongés dans des asiles d'aliénés, d'abord dans l'asile de Dole, dans le Jura, d'où il finit par s'enfuir. Puis dans l'asile de Saint-Robert, où les gendarmes le reconduisent. Entre-temps, il est définitivement démis de ses fonctions au sein de l'armée, car considéré comme atteint d'aliénation mentale et de troubles psychiques graves. Pourtant, le 1er avril 1894, il obtient sa permission de sortie de l'asile de Saint-Robert après que les médecins jugent sa rémission totale. Ne possédant pas d'adresse fixe ni de travail, Joseph Vacher n'a d'autre choix que d'aller grossir les rangs des vagabonds qui hantent les routes des campagnes. Son itinérance le mène d'abord en Isère, et ensuite à Grenoble. C'est là où sa série de crimes barbares commence. Durant 3 ans, Vacher traversera tout le périmètre du Sud-Est et remontera même jusqu'en Belgique, battant la campagne, frappant aux portes des chaumières, quémandant un bout de pain et un bol de soupe, faisant l'aumône, évoquant Dieu, le Messie et le jugement dernier. Convaincu d'avoir affaire à un prophète ou à l'un de ses pèlerins illuminés, les villageois le laissent parfois jouer un peu de musique devant chez eux, et si on lui fait assez confiance, il le laisse même parfois pénétrer à l'intérieur pour lui donner à manger. Ça, c'était seulement durant les meilleurs jours. La plupart du temps, Joseph Vacher et ses semblables étaient considérés comme des parasites, des laissés-pour-compte de la grande ville venue en masse polluer ses contrées. Du jour au lendemain, Joseph Vacher basculera sans précédent dans sa folie meurtrière, laissant à chaque fois derrière lui un cadavre atrocement mutilé. Ses cibles de prédilection sont les bergers. Enfant pour la plupart, seul et isolé dans la campagne sans défense, Joseph Vacher sait qu'ils n'opposeront pas beaucoup de résistance s'il venait à les molester. Cela suffit pour faire monter son excitation à son paroxysme. C'est ainsi qu'il tuera chronologiquement Eugénie Delhomme, Louise Marcel, Augustine Mortueux, agressera la veuve Morand de coups de couteau, massacrera et violera le petit berger Portalier, puis deux autres gardes de moutons, Pierre Massopelet et Olympe Buisson. La liste est cependant non exhaustive. D'autres meurtres commis des années auparavant seraient restés sans suite faute d'enquête sérieuse. Ainsi, au total, on parle d'une vingtaine de meurtres et d'une trentaine de viols commis aussi bien sur des jeunes filles que sur des jeunes garçons. Son mode opératoire est presque toujours le même, et ce, peu importe le lieu. Tapis dans les buissons, il guette longtemps sa victime, puis au moment opportun se jette à sa gorge, l'étrangle et la lui sectionne avec un objet coupant. Un couteau de poche qu'il portait toujours sur lui, ou une lame de rasoir. Puis Joseph Vacher procède à la mutilation de sa victime. Section des veines, ablation des seins pour les femmes, ablation des testicules ou du pénis pour les garçons, extraction des entrailles, attouchement nécrophile et viol post-mortem. L'agression sur la personne de Madame Plantier en 1897 sonnera le glas pour les ventreurs du Sud-Est. Entre-temps, le signalement que l'on fit de lui suite au meurtre de Victor Portalier parvient au juge Fourquet. Il se trouve que le prisonnier Joseph Vacher correspondait tout à fait à la description du suspect. On donne l'ordre de le transférer à la prison de Belley, où il fait la rencontre du juge pour la première fois. La première d'une longue liste de face-à-face. Dès que Joseph Vacher pénétra dans son bureau, le juge a comme l'intuition qu'il s'agit bien là de l'assassin qu'il traquait depuis des mois. Vêtu de vêtements de paysan savoyard et coiffé du bonnet de peau dont il ne se sépare pas, l'homme est un véritable mur, plongé dans un inébranlable mutisme. Le juge Émile Fourquet sait que la partie sera difficile à gagner. Il engage alors le dialogue avec le suspect, emploie un langage simple et convivial, lui parle d'un projet d'écriture d'un ouvrage sur les cheminots et autres vagabonds chassés par le chômage et la misère, et lui dit qu'il aurait besoin de son témoignage authentique sur le sujet. D'abord méfiant, Vacher commence ensuite à parler, sans doute flatté par l'attention manifeste de la personne de qualité en face de lui. Sans hésiter, il relate ses pérégrinations dans la région du Sud-Est, fournissant ainsi, sans s'en rendre compte, la date et les lieux concordant avec les meurtres. Le juge conclut que les crimes figurant dans le dossier d'instruction envoyé par le procureur de Dijon avaient eu lieu justement dans ce périmètre-là. Quelques jours plus tard, lors d'une entrevue, Joseph Vacher se confie un peu plus et parle de son implication dans le meurtre de 8 personnes. Pressé par le juge, il finit par avancer des noms et des lieux. Le meurtre de Victor Portalier surgit parmi les autres. Le juge Fourquet décide donc d'organiser une confrontation entre Joseph Vacher et les témoins de Bénonce où le meurtre du jeune berger avait eu lieu. Les témoins, arrivés au nombre de 14 personnes au tribunal de Belley, défilent un par un devant la cellule du suspect et reconnaissent à l'unanimité le vagabond qui est passé dans les maisons du village ce 31 août 1895 pour demander l'aumône. Plus aucun doute, c'est bien lui. L'écho de cette affaire arrive bientôt aux oreilles des membres de l'opinion publique. Le 16 octobre 1897, le Petit Journal publie un article intitulé « Lettre de Vacher », sorte de mea culpa où l'éventreur du Sud-Est, comme on l'appellera désormais, fait ses confessions. La lettre intitulée « À la France » commence par cette introduction. Tant pis pour vous, si vous me croyez responsable, votre seule manière d'agir me fait prendre pitié de vous. Mais l'article jugé trop sensationnaliste ne rencontre pas le succès escompté. On reproche même à Joseph Vacher de s'être inventé une vie, d'avoir exagéré, sinon fabulé, tous ces meurtres. Pourtant, le 25 octobre, des ossements non identifiés sont retrouvés dans un puits dans le Rhône. L'examen légiste atteste qu'il appartiendrait à une jeune personne âgée d'une quinzaine d'années. On attribue les signalements de ses restes à un jeune ouvrier, François Bully. mais ce dernier finit par se manifester en chair et en os quelques jours plus tard, laissant ainsi planer le doute sur l'identité du cadavre. Les morgues à cette époque, ayant pour habitude d'organiser des exhibitions de cadavres destinées au grand public, il s'avère que finalement les restes du puits appartiendraient à un certain vagabond, Claudius Beaupied, reconnu par ses parents grâce à sa dentition. Cependant, le juge Fourquet a besoin de plus d'aveux de la bouche de Vacher. Et pour le faire parler, le juge devra encore faire montre de patience et d'ingénuité. Vacher, depuis sa fameuse lettre publiée dans le journal, s'étant replongé dans son mutisme buté, Fourquet, lors d'une entrevue, le convainc que s'il vient à avouer tous les meurtres et donne tous les détails les concernant, il pourrait être exempt de la peine de mort, car jugé comme aliéné. Or, ce que le juge redoutait justement et par-dessus tout, c'était que des experts plaident la folie en faveur de Vacher, qu'il soit reconduit à l'asile et que tout le travail acharné mené jusque-là ne tombe à l'eau. Sa carrière de magistrat à peine entamée risquait également d'en pâtir. Il avait lui-même contribué à faire connaître l'affaire dans les journaux. L'opinion publique commençait à réclamer réparation pour les familles des victimes ou au moins la condamnation du meurtrier. Le petit journal avait même consacré un feuilleton exclusif à Vacher l'assassin et attendait chaque jour de nouveaux éléments judiciaires pour l'alimenter. Ce qu'il faut retenir, c'est que le visage de Vacher intrigue. Son œil cinglant et fixe effraye. L'affaire fait couler beaucoup d'encre, attisant les passions, forçant même quelques journalistes à lui faire son procès avant l'heure. Un chroniqueur lui consacra d'ailleurs ces lignes. Est-il fou ? Le soumettra-t-on de nouveau à un régime réparateur pour que, une fois régénéré, il recouvre le droit de recommencer ses exploits ? La pression est telle que le juge Fourquet devient aux aguets de la moindre fuite venant de la part du meurtrier. Il le sollicite pour discuter de plus en plus, se montrant familier et amical avec lui le plus souvent. Il semblerait que cette technique est celle qui faisait parler Vacher. Quelques jours plus tard, visiblement convaincu, Joseph Vacher envoie une lettre au juge où il avoue trois autres nouveaux crimes. Dans sa lettre, il assure avoir agi sous accès de rage. Raconte que dans son enfance, il a été mordu par un chien enragé, ce qui l'aurait rendu comme possédé et assoiffé de sang. Il raconte qu'il était en proie à une pulsion morbide et sexuelle jamais inassouvie et que ses passages à l'acte arrivaient toujours de façon non préméditée, rapide et hasardeuse, tout comme l'arme qu'il utilisait. Il pouvait aussi bien se servir de son couteau de poche que d'autres objets coupants trouvés, par exemple chez les victimes qu'il agressait chez elles, comme pour la veuve Morand. Comme pour se racheter, il évoque aussi son poste de postulant chez les frères maristes de Champagnat, où il avait pourtant bien travaillé avec des enfants, sans n'en avoir tué aucun. Vacher avouera en tout 11 meurtres, accompagnés ou non de viols post-mortem, qu'il dressa chronologiquement de cette manière dans sa lettre adressée au juge Fourquet. Le 20 mai 1894, à Beaurepaire, en Isère, Eugénie Delhomme, 21 ans, ouvrière assassinée puis violée. Le 20 novembre 1894, à Vidauban, dans le Var, Louise Marcel, 13 ans, bergère assassinée. Le 12 mai 1895, à Étole, en Franche-Comté, Augustine Mortueux, 17 ans, assassinée. Le 24 août 1895, en Savoie, la veuve Morand, 58 ans, assassinée puis violée. Le 31 août 1895, à Bénonce, dans l'Ain, Victor Portalier, 16 ans, berger, assassiné et violé. Le 22 septembre 1895, dans la Drôme, Aline Alaise, 13 ans, assassinée. Le 29 septembre 1895 en Ardèche, Pierre Massopelé, 14 ans, berger, assassiné puis violé. Le 1er mars 1896 dans la Sarthe, Marie Derouet, 11 ans, tentative de viol. Le 10 septembre 1896 dans l'Allier, Marie Moussier-Lorue, 19 ans, assassinée. Le 1er octobre 1896 en Haute-Loire, Rosine Rodier, 14 ans, bergère, assassinée. Fin mai 1897, dans le Rhône, Claudius Beaupied, 14 ans, cheminot, assassiné et jeté dans un puits. Et enfin, le 18 juin 1897, dans le Rhône, Jean-Pierre Laurent, 14 ans, valet de ferme, assassiné puis violé. Le juge Fourquet, pour en avoir le cœur net, décide d'avoir recours à l'expertise psychiatrique. Le professeur Alexandre Lacassagne est nommé comme médecin-chef en charge de cette expertise. Après auscultation de Joseph Vacher, le diagnostic est sans appel. Les crimes perpétrés sont ceux d'un antisocial, sadique, sanguinaire et pleinement responsable de ses actes. En d'autres termes, le docteur Lacassagne estime que Vacher devrait passer par les assises et être condamné pour ses meurtres. Le 26 octobre 1898 s'ouvra le procès de Joseph Vacher. Un procès expéditif, étalé sur 3 jours seulement. Curieusement, sur les 11 meurtres qu'il a avoués, il ne sera condamné que pour un seul, celui du berger Victor Portellier à Bénance. Cependant, l'instruction judiciaire soupçonnera que le nombre des victimes de Vacher ne se limiterait pas à 11, mais oscillerait réellement entre 30 et 50 meurtres. Le 28 octobre 1898, après des délibérations qui auraient duré même pas une heure, la cour d'assises de l'Ain condamna après unanimité du jury l'éventreur du Sud-Est à la peine de mort. Un verdict attendu. La grâce présidentielle reste le seul recours pour les avocats de la défense. Or, le président de la République, Félix Faure, refusera catégoriquement de l'accorder à Joseph Vacher. Son exécution a lieu à Bourg-en-Bresse par une froide journée du 31 décembre 1898. Une foule de pas moins de 2000 personnes est venue y assister. Joseph Vacher meurt sous le couperet de la guillotine à l'âge de 29 ans à 3h du matin, la veille du nouvel an 1899. La veille de son exécution, il avait demandé à être rasé de près et que ses cheveux soient coupés à ras de la nuque. Suite à sa mort, le mystère restera complet. Certains se demanderont longtemps, a-t-on par inadvertance ou excès de zèle fait condamner un pauvre fou ? Le docteur Alexandre Lacassagne, qui a réalisé l'expertise médico-judiciaire de Joseph Vacher, dira à son propos dans un ouvrage qui lui fut consacré en 1899 « Nous sommes convaincus d'avoir dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Après s'être rendu compte de nos efforts, on conviendra, nous l'espérons, que si nous nous sommes trompés, c'est certainement de bonne foi. » 2 semaines après l'exécution de l'éventreur, le Petit Journal écrira dans son éditorial du 15 janvier 1899 « L'abominable Vacher a été exécuté. La société l'a non pas puni, le châtiment ne serait pas équivalent à ses crimes, elle l'a supprimé, elle s'est délivrée de lui. C'est ce qu'elle avait de mieux à faire. Si en écoutant certains philanthropes on avait enfermé Vacher, il est bien probable qu'il se serait évadé et de nouveaux crimes auraient été commis. » Après avoir enfin résolu l'énigme de l'éventreur de l'Est, le juge Fourquet continua sa carrière de façon moins sensationnelle. Les affaires qu'il instruira par la suite ne feront pas autant de bruit, ni généreront autant de débats et de questionnements que l'affaire Vacher, qu'il avait considérée longtemps comme son affaire attitrée. Et c'est ainsi que s'achève le périple meurtrier de l'éventreur du Sud-Est, qui fut l'un des premiers serial killers contemporains en France. Après sa mort, certains chercheront à le réhabiliter, mettant l'accent sur les troubles psychiques, tels que la schizophrénie dont il avait pu souffrir sans le savoir et l'ayant poussé à commettre ses meurtres. Contrairement à aujourd'hui, à l'époque de Vacher, aliéné et criminel n'allaient pas de pair, et le crime perpétré suite à un trouble mental n'était pas condamnable par la justice. C'est dans cet esprit que l'approche de le faire ausculter par des psychiatres choisis par le juge Fourquet pourrait être considérée comme novatrice en matière d'expertise médico-légale. Dès 1907, dans la même vague de réorganisation de la police afin de perpétuer l'idée du juge Fourquet, le président Clémenceau crée pour la première fois en France une brigade mobile, circulant en voiture de ville en ville et pouvant étendre son autorité sur tout le territoire. Cette police aura pour nom la Brigade du Tigre. Faute de traquer les serial killers, elle se spécialisera plus dans les arrestations de bandes de crimes organisées, orientées dans les braquages de banques, la bande à Bono notamment. Contrairement à son homologue de Whitechapel, Joseph Vacher ne se taillera une réputation qu'en France et dans certains pays frontaliers et francophones. L'avènement de nouvelles affaires criminelles plus enracinées dans la culture populaire actuelle contribuera à le faire lentement oublier de l'opinion collective française et de l'opinion de manière générale. Il faudra attendre les années 2000 pour voir ressurgir un intérêt pour les tueurs de la fin du 19e siècle. Des reportages et des romans lui seront consacrés. En 1976 sort au cinéma « Le juge et l'assassin », un film de Bertrand Tavernier avec en tête d'affiche Philippe Noiret dans le rôle du juge Fourquet et Michel Galabru dans celui de Vacher. le film s'est beaucoup axé sur la relation de force entre le magistrat et le meurtrier.